J'aimerais examiner avec vous le cas d'un homme qui était non seulement désespéré, mais pire encore, quelqu'un qui était né dans le désespoir total, car il était né aveugle. Et en préparant le message, je me disais, nous, on s'est jamais mis à la place d'un aveugle. Alors, je pourrais vous mettre un bandeau sur les yeux et venir en avant et vous dire, écoute, essaye de te rendre jusqu'à la toilette sans accrocher les chaises. Vous seriez probablement capable, avec peut-être en accrochant une ou deux chaises, de vous rendre jusqu'aux toilettes. Parce que vous savez déjà où sont les toilettes. Parce que vous avez déjà visualisé les toilettes. Ben, amenez un aveugle en avant, puis dites-lui, ben écoute, les toilettes sont à ta droite, écoute, c'est juste à pousser dans la porte, hein, elle est ouverte. Ben, il va probablement s'accrocher dans toutes les chaises. Hein. Il va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider. Et vous savez, s'il y avait un membre qu'on devait perdre, ou un organe qu'on devait perdre dans nos vies, eh bien, je pense que, non, qu'on ne devrait pas perdre dans nos vies, pardon, c'est bien nos yeux, quoi, hein. Cela, nous, quand on perd nos yeux, on est dépendant de tous et chacun, et c'est pas toujours évident. Alors, si aujourd'hui des lois ont été adoptées pour faciliter la vie des personnes nées, des personnes handicapées, ce n'était pas le cas à l'époque de Jésus. Si vous étiez handicapé, vous étiez considéré comme étant un fardeau et une malédiction pour la société. Et ce que nous allons apprendre ce matin à travers cette histoire, pour ceux qui ont leur Bible, en tout cas, ça va être dans Jean chapitre 9, cette histoire incroyable constitue une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont désespérés aujourd'hui à cause d'un problème qu'ils vivent et qui n'est pas nécessairement d'ordre physique, mais qui peut être d'ordre émotionnel, psychologique ou spirituel. Si vous êtes en désespéré ce matin, et ce pour une des raisons que je viens d'énumérer, je vous invite à mémoriser cette phrase pendant que nous allons poursuivre, pendant que nous allons regarder, examiner ensemble ce message. Le désespoir constitue l'environnement idéal pour voir Dieu transformer une vie. Vous êtes amen à ça. Quand tout va bien, on a souvent, on n'en a rien à cirer de Dieu, bien-aimé. Et Dieu permet qu'il y ait une petite maladie, permet qu'il y ait une petite épreuve. Et là, whoop, on se rappelle à qui nous devons tout, quoi. Et là, on revient, il veut reprendre sa place. Il a dit qu'il était un Dieu jaloux. Alors, il veut pas partager sa gloire avec personne, bien-aimé. Alors, il veut, c'est un Dieu qui est extraordinaire, quoi. Hein? Si nous, on l'oublie, lui, il nous oublie pas. C'est vrai. Et il nous aime d'un amour éternel. Donc, son amour ne diminue pas pour autant non plus. Alors, ça, c'est magnifique. La première chose que cet aveugle a fait, et souvent, c'est ce qu'on oublie, nous, c'est de croire ce que Jésus a dit. Il faut prendre Jésus au mot. Il faut prendre la parole de Dieu au mot. Dieu fait une promesse, et bien cette promesse, on doit marcher dans cette promesse, bien-aimé. Si Dieu a dit que j'ai vraiment, et même d'un amour éternel, le diable peut venir me chuchoter ce qu'il veut. Dieu m'aime d'un amour éternel. Si mon amour pour lui peut faiblir, l'amour de Dieu ne faiblit pas pour chacun de nous, bien-aimé. Et ça, c'est extraordinaire, bien-aimé. Combien il y a de personnes dans vos vies? Moi, j'ai 76 ans, hein. Combien de personnes dans ma vie, moi, qui m'ont dit qu'ils m'aimaient, qu'ils m'aimeraient toujours? Je les cherche encore, hein. Il y en a, ça fait 50, 60 ans que j'ai pas revu, hein. Ça fait longtemps qu'ils m'ont oublié, hein. Mais bien-aimé, ça fait 43 ans, plus ou moins, que j'ai accepté le Seigneur. Dieu ne m'a jamais mis de côté. Même dans ma maladie, même dans mon cancer. Alors qu'on me donnait 6 mois à vie, ça fait déjà 16 ans. Et je pense que mon médecin va mourir avant moi, parce que j'ai encore des contacts avec lui. Dieu était là, Dieu était présent. J'avais connu Dieu en tant que mon sauveur, mon créateur. Mais dans ma maladie, là, Dieu était comme mon père, quoi. Je l'ai senti comme mon père. Il m'a porté dans la maladie. J'ai jamais été seul dans la maladie. À tel point qu'à un moment donné, tu ne penses même pas de résister à la mort, quoi. Parce que le Saint-Esprit te rappelle que c'est meilleur de l'autre côté, quoi. C'est meilleur de l'autre côté, c'est ça. Et la chair, c'est la chair qui s'attache au bien de ce monde. Hein. C'est la chair qui veut rester sur cette terre. Hein. Mais dans notre esprit, dans la connaissance que nous avons de la parole, les promesses sont tellement belles, bien-aimés. Allez, Seigneur, viens me chercher. Qu'est-ce que t'attends quand on regarde ce qui se passe dans le monde, bien-aimés? Je peux vous dire une chose ce matin. Jésus est encore plus proche de revenir aujourd'hui qu'il était hier, bien-aimé. Vous dites amen à ça. Hey, ça, c'est pas fort, hein? Midi, t'es d'accord, hein? Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra matin pour filmer ça, hein? Franchement, là. Vous êtes d'accord avec ça? Amen? Amen. Ah, voilà. Là, on va décoller maintenant. Pour ceux qui ont leur Bible, verset 1. Jésus venait de sortir du temple. Ça, c'est le contexte. Il sort du temple. Et il voit en passant un homme aveugle de naissance. Imaginez, cet homme n'avait jamais vu le soleil se coucher et se lever. Il n'avait jamais vu un oiseau voler. Il n'avait jamais vu sa mère et son père. Bref, il n'avait jamais rien vu. Et l'une des principales raisons pour lesquelles il était désespéré, c'était l'isolement dans lequel il se trouvait. Imaginez ce que la vie de cet homme aurait pu être lorsqu'il était un tout jeune enfant. Non seulement les enfants de son âge ne voulaient pas jouer avec lui, surtout si le basket ou le foot aurait... faire jouer un aveugle au basket ou au foot, ça donne pas grand-chose. Hein? Ça donne pas beaucoup de points, en tout cas. Et c'est pas intéressant pour celui qui va hériter de cette personne-là. Il était aveugle, donc il était éliminé dans tous les sports qu'il pouvait avoir à cette époque. Personne ne voulait l'avoir, quoi. Il ne pouvait même pas aller à l'école, qu'il n'y avait pas d'éducateur spécialisé à son époque pour le stimuler. Et le braille n'existait pas à ce moment-là, bien-aimé. Enfin, si vous étiez aveugle, vous n'aviez aucun débouché dans la vie, puisque vous ne saviez ni lire, ni écrire. Vous étiez donc destiné à vivre dans une grande pauvreté. Il est vrai qu'à cette époque, si vous aviez un handicap physique, et ce, peu importe ce que c'était, les gens croyaient que vous aviez fait quelque chose de mal ou que vos parents avaient fait quelque chose de mal. Et le verset 2, pour ceux qui ont leur Bible, il est écrit, c'est la raison pour laquelle les disciples vont demander à Jésus lequel des deux avait péché. Est-ce que c'était lui ou si c'était sa femme, c'était ses parents? Jésus va leur répondre que ce n'était ni à cause de son péché, ni à cause de ses parents. S'il était aveugle, c'était pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Avez-vous bien saisi c'est pour que l'œuvre, s'il est devenu au monde aveugle, ce gars-là, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser en lui. Mine de rien, bien-aimé, c'est énorme ce que Jésus vient de dire ici, quoi. Dieu a fait en sorte que cet homme-là, il avait déterminé d'avance que cet homme-là viendrait au monde aveugle, quoi. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, parce que Dieu avait quelque chose pour lui. Dieu avait déjà préparé une rencontre avec lui, avec Jésus, quoi. Dieu savait que cet homme-là, il montrait en haut, bien-aimé. Parce que quand on va voir ses paroles un peu plus loin, cet homme-là, il était sauvé, bien-aimé. Il avait compris ce que des fois, il y a des chrétiens, ça leur prend une vie à comprendre, bien-aimé. Il avait compris, on va voir ce qu'il va dire aux pharisiens tantôt, et c'est incroyable ce qu'il peut leur lancer. On dirait qu'il a 20 ans d'expérience, lui, dans la vie chrétienne. Mais à partir du jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu viens déjà de rentrer dans l'éternité, bien-aimé. Déjà. Ouais. Et je vous raconterai pas ma vie, mais je rends grâce à Dieu d'avoir eu pitié de moi, quoi. De m'avoir accepté, non pas sur la base de ce que j'étais, mais sur la base de ce que j'allais devenir en Jésus-Christ. Heureusement qu'on a, Dieu a toujours les yeux fixés sur nous. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, si on s'est éloigné de lui, Dieu est toujours là, tendre la main pour nous récupérer, bien-aimé. Voilà, ça c'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu qui ne se fatigue pas de nous pardonner à chaque fois que nous venons devant le trône de la grâce de Dieu pour lui demander pardon, pour des fois notre égoïsme, pour toutes sortes d'autres raisons. Jésus venait de leur dire que cet homme n'était pas né aveugle à cause de quelque chose qu'il avait fait de mal, mais à cause de quelque chose de bien que Dieu voulait accomplir en lui. Alors que nous plongeons nos regards dans ce passage ce matin, vous devez garder une chose à l'esprit, Jésus ne va pas se contenter de s'occuper seulement de la cécité physique de cet homme, mais il va surtout se concentrer sur la cécité spirituelle de cet homme. Car voyez-vous, bien-aimé, c'est une chose pour quelqu'un d'être aveugle physiquement, mais ça en est tout autre d'être spirituellement aveugle, bien-aimé. Bien-aimé, cet homme n'était pas aveugle parce qu'il ne pouvait pas voir, il ne voyait pas parce qu'il était aveugle. Cela peut vous paraître simple, mais permettez-moi de vous m'assurer que vous compreniez ce que je veux dire, parce que je vais traduire cela en vérité spirituelle. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous péchons parce que nous sommes venus au monde avec le péché qui habite en nous. Nous ne venons pas au monde en ayant Dieu en nous pour ensuite nous égarer. Nous naissons sans Dieu, bien-aimé. Et ça, c'est très important. On ne vient pas au monde pécheur, bien-aimé. Donnez-moi le verset dans la Bible. Parce qu'il n'y a personne, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucun pécheur qui va rentrer au ciel. Ben, si on vient au monde pécheur, bien-aimé, on condamne les bébés qui meurent, quoi. On condamne les bébés qui sont avortés, bien-aimé. Ils s'en vont en enfer. On vient au monde avec le péché qui habite en nous et on devient pécheur. Hein, Jésus a dit, quand vous avez tous pour père le diable, ben oui, on va servir le diable. Et il dit, vous faites les œuvres que votre père vous demande de faire. Ben oui, hein. Bien-aimé, on devient pécheur. Ça, c'est important. Et on est responsable à partir du moment où notre conscience est éveillée. Moi, je me souviens, c'était à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si vous... Vous vous souvenez du premier péché que vous avez fait? Moi, je m'en souviens, hein? Parce que c'est la première fois que ma conscience me disait « Oh, coupable, coupable, coupable. » Et c'était à l'école. J'avais commencé à l'école à 5 ans. Et il y avait un professeur qui avait accroché son veston sur un crochet et j'ai fouillé dans sa poche. Parce que je l'ai accroché, ça fait « ling, ling, ling ». Ah, j'ai dit « Il y a quelque chose dans ses poches, lui. » J'ai pris une pièce. Chez nous, on a des 25 sous, hein? Des 25 centimes. On n'a pas des 20, mais on a des 25. Et je l'ai pris. Et là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie ma conscience qui me disait « Coupable, coupable, coupable ». J'avais des remords, quoi. Mais avant ça, je faisais pas la différence entre le bien et le mal. Hein. C'est ça la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Hein. L'enfant qui n'a pas le danger, l'enfant qui n'a pas le danger, il n'y a pas d'expérience de vie. Alors, il faut les surveiller, quoi. Voilà. Voilà pourquoi Jésus doit dire à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau, naître d'en haut. On est né d'abord d'un Père céleste. Maintenant, on a besoin de naître d'un Père céleste pour pouvoir devenir un enfant du royaume des cieux. Pourquoi est-il nécessaire de naître de nouveau? Parce que nous sommes nés sans Dieu et que pour naître de Dieu, il faut naître d'en haut. Si vous êtes dans une situation désespérée ce matin et que vous voulez vous en sortir, la première chose que vous devez commencer à faire aujourd'hui, c'est commencer à croire ce que Jésus dit. Jean chapitre 8, verset 51, « Celui qui m'obéit ne mourra jamais. » Sauver un jour, sauver toujours, j'ai pas de problème avec ça. Et je vous prêcherai pas la perte du salut, j'y crois pas. Mais sauver un jour, sauver toujours, ça signifie qu'on a aussi oublié, faut pas oublier que Dieu est un Dieu qui nous aime, aime le pécheur. Mais il ne faut pas oublier aussi que Dieu déteste le péché, bien-aimé. Et ça, c'est une partie qu'on ne prêche plus trop souvent, quoi. C'est important, bien-aimé. L'obéissance, partout dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, partout l'obéissance est là. Faire sa volonté, c'est lui obéir. Hein. Partout, bien-aimé. Et quand on vient au Seigneur, on ne peut plus continuer à s'amuser à faire ce qu'on faisait avant. Si on est né de nouveau, là. On peut plus. Moi, si je voulais retourner dans le monde, je racontais ça à mon épouse. Je disais, inquiète-toi pas, jamais je vais retourner dans le monde. Parce que celui qui vivait pour le monde, il est mort en Jésus-Christ. Il est mort. Bien-aimé, je serais pas capable. J'y trouverais même plus aucun plaisir. Puisque cette partie de moi qui trouvait un plaisir dans le péché, le regarde maintenant comme Jésus le voit. Et c'est une mort, la mort éternelle, quoi. De plonger dans le péché, vivre dans le péché, renier le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes né de nouveau, là, vous ne retournerez jamais dans le monde. Jamais. Jamais. Il y a un frère à un moment donné qui prêchait pour que son fils revienne au Seigneur. Non, j'ai dit, prie. Avec la vie qu'il faisait son fils, je lui ai dit, prie pour qu'il accepte le Seigneur, ton fils. Parce que c'était un religieux. Oui, mais il est né dans l'Église. Naître dans l'Église, ça sauve pas. C'est naître de nouveau qui sauve. Hein? Naître de nouveau, bien-aimé. Naître de Dieu. Hein? Voilà. Et ça, c'est important. Et on va voir dans la suite ici qu'est-ce qui va arriver avec cet aveugle. Verset 6. Hein. « Après avoir dit à ses disciples qu'il était la lumière du monde, Jésus va cracher par terre et faire un peu de boue avec sa salive, puis il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle, en lui disant d'aller se laver la figure à la piscine de Siloé. L'aveugle va démontrer qu'il croyait ce que Jésus venait de lui demander. Il va faire ce que Jésus lui a dit. » En allant se laver la figure à la piscine de Siloé, et lorsqu'il est revenu, il voyait, moi j'aime bien le texte biblique, c'est pas juste qu'il voyait, il voyait clair. C'est bien ça de dire qu'il voyait clair. Mais il voyait clair sur beaucoup de points, bien-aimé. Non seulement le physique, mais aussi le spirituel. Il voyait clair par rapport au gars qui est en avant de lui, bien-aimé. Oui. Pourquoi cet homme a-t-il été guéri? Parce qu'il a non seulement démontré dans un premier temps qu'il avait cru ce que Jésus venait de lui demander de faire, mais dans un deuxième temps, parce qu'il va lui obéir en allant se laver la figure à la piscine de Siloé, et lorsqu'il est revenu, il voyait clair. Le deuxième point, bien-aimé, si dans un premier temps il obéit, dans un deuxième temps, il a fait ce que Jésus a dit, oui, il a obéi. Et ce qui est intéressant ici, bien-aimé, c'est que Jésus, il avait dit, tu vas à la piscine de Siloé. Peut-être qu'à la piscine, pour un aveugle, hein, c'est pas facile de se rendre à... Bon, il y a sûrement quelqu'un qui l'accompagnait. Mais il y avait peut-être une piscine qui était plus proche. Hein. Il y a peut-être une piscine qui aurait moins, qu'il aurait facilité la tâche plus que d'aller à la piscine de Siloé. Mais bien aimé, s'il avait été se laver là, dans une autre piscine, il serait revenu aussi aveugle qu'il était avant, bien aimé. Parce que Jésus, il avait dit, tu vas aller à la piscine de Siloé. Bien aimé, avec Dieu, si on veut voir Dieu accomplir des miracles dans nos vies, non? Il faut pas faire des détours. Il faut faire exactement ce que Dieu nous dit. Ah oui, ça c'est bon pour moi, mais ça je vais le laisser pour les autres. Non, 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 c'est bon pour tout le monde. Voilà. Si cette personne-là n'avait pas été se laver les yeux à la piscine de Siloé, il serait aveugle, il serait revenu, il aurait dit, ben oui, mais je vois pas plus clair qu'avant, hein? Et le texte nous dit, il voyait clair. Extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Hey, on est trois dans une... Hey, je sais pas si vous allez être honnête avec moi, d'accord avec moi, pas honnête, je sais que vous êtes déjà honnête. Mais on est une génération de chrétiens quand même de bébés gâtés. Hein? On a tout ce qu'on veut. Hein? Tout ce qu'on veut. Et Dieu nous dit en Jésus-Christ, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez l'annoncer. Profitez-en le temps que vous vivez dans un pays où il n'y a pas de persécution, bien-aimé. Vous voulez venir faire un tour, vous voulez faire un voyage missionnaire au Québec avec moi? Hein? Des coups de pied dans le derrière, vous allez en recevoir. Des claques dans la figure, vous allez en recevoir. Des insultes, vous allez en recevoir. Des crachats, vous allez en recevoir, bien-aimé. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Belgique, je n'ai jamais été insulté par un Belge. Et j'en fais de l'évangélisation, moi. J'en fais continuellement, bien-aimé. J'ai jamais été insulté par un Belge. Le Belge, je vous le dis, il est trop poli. Il est trop poli, quoi. Et on aura des comptes à rendre, à faire devant Dieu avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'il nous a donné, bien-aimé. Oui, hein? Rappelez-vous la parabole des talents, hein? Il y en a un qui en a eu 100, l'autre en a eu un peu moins, puis l'autre en a eu un. Et celui qui en a eu un, bien, plutôt que de le faire fructifier, il l'a caché. Et Jésus était très sévère avec lui, hein? Très sévère. Bien-aimé, peu importe vos talents, peu importe les capacités que vous avez, il faut partir avec l'idée que c'est pas vous, c'est pas moi qui convertissons, c'est Dieu qui convertit en Jésus-Christ. Ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de lire la Bible pour que laisser le Saint-Esprit parler à travers nous et transmettre cette grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. OK, OK, on va y aller plus vite. Quelle sera la réaction des voisins de ceux qui avaient vu cet homme mendier pendant des années qui venait d'être guéri par Jésus? Verset 8. Ils se demandaient si cet homme était bien celui qu'ils avaient vu mendier pendant tant d'années. C'est incroyable, hein? C'est incroyable l'incrédulité, hein? Est-ce que ce gars-là, il avait vraiment tant changé que ça physiquement, qu'il n'était pas capable de le reconnaître? Voyons donc, hein? Mon œil, hein? Il le savait très bien que c'était lui, hein? Les pharisiens le savaient très bien que c'était lui, hein? Il était devant le tronc, il était devant le temple à chaque jour pour connecter de l'argent, il tendait la main. Alors, ben, on n'était pas certain. Regardez ce que le texte biblique nous dit. Il se demandait si cet homme était bien celui qui avait vu mendier pendant tant d'années. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. La raison pourquoi les voisins étaient sceptiques, c'est parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas croire ce qui venait d'arriver à cet homme, bien-aimé. On préfère dire que ce gars-là faisait semblant d'être aveugle pour toucher de l'argent que de dire que Jésus venait d'accomplir un miracle. Et quand on va lire les autres versets, non seulement on va dire, on va essayer de mettre Jésus de côté, mais on va dire, c'est pas possible, lui c'est un pécheur, Jésus, c'est pas possible que tu sois, qu'il ait été guéri par un pécheur. C'est fort ça, hein? Ouais. L'incrédulité des gens, quand on veut pas croire, bien-aimé, quand on résiste au Saint-Esprit, là, tout ce qu'on peut faire pour cette personne-là, c'est de prier pour cette personne qui résiste. J'ai vu votre deuxième, troisième voisin là matin. J'ai pris un temps avec lui, hein. Il est perdu, ce gars-là, hein. Ça, c'est pour la première fois que je parle avec, hein. Ma matin était un petit peu plus sévère que d'habitude, mais ça fait rien, quoi. Ça fait rien. J'aimerais bien savoir quelle sorte de péché pratique ce gars-là pour être si rebelle à l'Évangile, quoi. J'aimerais bien savoir, hein. Ouais. J'aimerais bien savoir, hein, pour nous traiter de fanatiques. J'ai dit que dans ce qu'il croyait, être aussi fanatique que moi. Hein. Il ne croit rien, lui. Mais peut Dieu croire qu'avec rien, on fait quelque chose. Hein? C'est ce qu'il croit, ce monsieur-là. L'homme avait beau leur répéter que c'était bien lui, incrédule, ils vont quand même lui demander de leur expliquer comment ses yeux avaient été guéris. Il va leur répondre que l'homme qu'on appelle Jésus avait fait de la boue, il avait frotté ses yeux en lui disant d'aller au réservoir de Siloé, de se laver. Il avait ensuite obéi, bien-aimé. Dieu a dit, lui, il va obéir. Oui. Et là, Jésus est allé au réservoir de Siloé, se laver. Ensuite, il avait obéi. Je vais répéter ce que Jésus lui avait demandé. Il y était allé, s'était lavé, il avait recouvré la vue. Si nous avions été à la place de cet homme, bien-aimé, sans porter de jugement, combien d'entre nous, après avoir entendu Jésus cracher, pas trop propre cracher hein, dans le visage de quelqu'un, cracher et faire de la boue avec ses mains pour ensuite la déposer sur nos yeux, lui aurait obéi et aurait été se laver les yeux dans la piscine de Siloé. Les gens qui ont vu Jésus cracher, là, faire de la boue, hein? Il y a personne qui se lave avec de la boue. J'espère que vous utilisez tous du savon un matin, hein? Il y a personne qui se lave avec de la boue, hein? Combien il y a des gens qui doivent s'être moqués, quoi? Dire, mais non, mais c'est pas, il va empirer son état, quoi. Mais avec Dieu, bien aimé, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais il n'y a rien de logique avec Dieu non plus, hein? Dieu surpasse toutes ces choses-là, quoi. Vous souvenez-vous de ce vieux dicton qui dit « voir, c'est croire ». Jésus lui dit tout le contraire. « Voir, ce n'est pas croire, mais croire, c'est voir ». Rappelez-vous la première fois que Jésus était apparu à ses disciples après avoir été ressuscité. Thomas n'y était pas. Et une semaine plus tard, ses disciples étaient à nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-là, Thomas était avec eux. Jésus avait demandé à Thomas de mettre son doigt dans ses plaies en lui disant de cesser de douter et de croire. Quelle sera la réponse de Thomas? « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus va lui dire « c'est parce que tu m'as vu que tu as cru, mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Combien est-ce qu'il y a des gens qui vous disent, vous allez leur rendre, des fois vous parlez de leur évangile, « Non, mais il faut que je voie avant. » Ce n'est pas le système de Dieu. Hein? Si tu veux voir avant, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu, donc tu ne te convertiras pas. Commence d'abord par croire quoi, que ce que je te dis, c'est la vérité. Puis après ça, tu vas voir Dieu agir dans ta vie, quoi. Si cet homme avait eu la réaction que beaucoup d'entre nous avaient probablement, nous aurions eu probablement, il serait mort aveugle. Jésus lui avait simplement dit de lui faire confiance et de faire ce qu'il lui avait dit de faire, et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à croire en Jésus sans exiger des preuves que ça marcherait? La réponse est simple, bien-aimé. Il était non seulement désespéré, ce pauvre homme, mais il ne voulait pas mourir aveugle. De plus, il avait sûrement entendu parler de Jésus et il était convaincu que seul Jésus pouvait le guérir. Dites amen à ça. Et peu importe la maladie que vous avez dans vos cœurs aujourd'hui, dans vos corps aujourd'hui, seul Jésus peut vous guérir, bien-aimé. Vous êtes un amen à ça. Merci, caméra. C'est bien ça, ce truc-là. Hein? On va aller partout comme ça. Je veux dire, écoute, on est venu cette nuit, on a installé des caméras partout maintenant. Voilà. Quelle sera la réaction des pharisiens? Ils vont demander à voir cet homme. On va amener, verset 13, on va amener l'homme qui venait d'être guéri devant les pharisiens. N'oublions pas que c'était eux un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Oh, hey, travailler le jour du sabbat, hein? Oh, piré. Oh, yoyoy. Et qu'il avait ouvert les yeux de cet homme. Les pharisiens vont lui redemander, comment il pouvait maintenant voir. Et il va leur répondre à nouveau que cet homme qui s'appelle Jésus avait appliqué de la boue dans ses yeux, qui lui avait ensuite demandé d'aller se laver à la piscine de Siloé et que maintenant il voyait. Il ne pouvait pas changer. C'était la vérité, il ne pouvait pas changer. Finalement, ce qu'il avait à dire. Hein? Savez-vous ce qu'il y a d'incroyable ici? C'est que ces chefs religieux qui se disaient non seulement croire en Dieu, mais croire que Dieu faisait aussi des miracles, au lieu de se réjouir de ce qui venait d'arriver à cet homme, voulaient savoir non seulement comment il avait été guéri, mais cherchaient à remettre en doute sa guérison, quoi. Verset 16 et suivant, ils vont dire que cet homme appelé Jésus ne venait pas de Dieu, étant donné qu'il n'observait pas le sabbat. D'autres vont renchérir en demandant comment un homme pécheur, c'est bien ce que le texte biblique dit, comment un homme pécheur pouvait-il faire de tels miracles? Résultat, il y a une division entre eux. S'adressant encore une fois à l'aveugle qui avait été guéri, ils vont lui demander ce qu'il avait à dire concernant celui qui lui avait ouvert les yeux. Il va lui répondre que c'était un prophète. Et ça, là, à l'époque, dire que quelqu'un était un prophète, tu étais en train de lui dire que c'était Dieu, quoi. On n'avait pas le droit. Les pharisiens avaient défendu aux gens de prononcer le mot prophète, quoi. Parce que c'était associé ça vraiment à la présence de Dieu au milieu du peuple. Et lui, il va le dire, lui, il ne se gênera pas. Il va le dire. Savez-vous pourquoi ce jour-là, il n'y a pas eu de fête de réjouissance en l'honneur du Seigneur qui était venu accomplir un miracle dans la vie de ce pauvre aveugle? Regardez ce que le texte biblique nous dit. Les chefs juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il voyait. Ils vont même convoquer ses parents pour les interroger, leur demander non seulement si cet homme était bien leur fils, mais s'ils pouvaient confirmer qu'il était né aveugle, et si c'était le cas, qu'il leur explique ce qui s'était passé pour qu'ils voient maintenant. C'est incroyable, hein? Mais c'est incroyable, quoi! Les parents vont leur répondre que c'était bien leur fils et qu'il était aveugle, né aveugle. Cependant, non seulement ils ne savaient pas ce qui s'était passé pour qu'ils voient maintenant, mais ils ne savaient pas non plus qui l'avait guéri. Ils vont demander aux pharisiens d'interroger eux-mêmes leur fils, ajoutant qu'il était assez vieux lui-même pour répondre. Les parents avaient parlé ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs, nous dit le texte biblique, qui s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus était le Messie. Les parents s'étaient probablement dit non seulement qu'ils n'allaient pas prendre le risque, mais qu'il n'était pas question qu'ils s'impliquent dans cette affaire. D'abord, il n'y avait rien à voir là-dedans, qui concerne leur fils et Jésus. Car si jamais vous étiez répudié de la synagogue à cette époque, votre vie était fichue, bien-aimé. Non seulement vous ne pouviez plus trouver du travail, parce que les pharisiens passaient le mot d'ordre aux hommes d'affaires, mais vous ne pouviez plus jamais remettre les pieds dans une synagogue. De plus, non seulement vous étiez totalement coupé de tout rapport avec vos amis, mais vous étiez aussi rejeté, sur l'ordre bien sûr des pharisiens, par tous les membres de votre propre famille. Il ne vous restait plus qu'à déménager, vous mourriez en pensant avoir été rejeté non seulement par votre propre famille, mais aussi par Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et vous pensez que ça se passait juste à l'époque de Jésus, ça? Je vais vous dire, je n'ai rien contre les religions, mais il y a une religion au Québec qui dominait à l'époque, les années 60. Les protestants, eh bien, contrairement aux catholiques, ils allaient dans les études universitaires, dans les hautes études. Mais l'autre religion, pour garder les gens dans l'ignorance et mieux les manipuler, on leur faisait faire la première, deuxième, troisième, quatrième année, c'était suffisant. Ils savaient lire, ils savaient écrire. Et pour avoir un emploi, eh bien, il y avait eu une visite entre avec les dirigeants de cette religion, avec les hommes d'affaires protestants, disant, écoutez, vous ne pouvez pas engager aucune personne de notre religion si vous ne recevez pas une lettre de recommandation. Et vous savez comment on donnait la lettre de recommandation? Moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça. Tu allais voir, il fallait que tu passes par le curé qui donnait, en fait, ces lettres-là. Et là, le curé te regardait, il dit, bon, je vais prendre mon cas, un exemple. Monsieur Hudon, il me semble que ça fait quelques semaines que je ne vous vois pas à l'église. C'est difficile pour moi aujourd'hui de vous donner une lettre de recommandation, quoi. Et quand tu vois que la personne a 8 enfants, ça prenait absolument cette lettre-là. Alors, finalement, ça faisait des religieux. Hein? Les gens venaient à l'église pour avoir un emploi puis pour ne pas la perdre après. Parce que si t'arrêtais après, eh bien, le curé disait au chef d'entreprise, trouve une raison pour le licencier, quoi. Bien aimé, on n'a rien inventé, hein? On n'a rien inventé, hein? Et là, vous savez un peu la religion que je parle, mais ça avait été bouddhiste, ça avait été hindou. Personne, hein? Ils sont tous égaux au niveau des religions, hein? Chez nous, c'était une religion, bien, celle que vous connaissez, quoi. Voilà. Et c'était triste, quoi. Alors, ne lâchant pas prise, les pharisiens vont faire venir encore une fois l'homme qui était aveugle à la barre des témoins, déterminés à ce que leur interrogatoire et leur enquête trouvent une explication. Verset 24, ils vont lui ordonner de rendre gloire à Dieu, de leur dire la vérité, car ils savaient que cet homme était un pécheur. En fait, ils étaient carrément en train de renier que Jésus était le Messie. Ils étaient carrément de renier que Jésus était Dieu fait homme, quoi. Cet homme, autrefois aveugle et sans instruction, qui ne savait même pas lire une lettre, qui ne connaissait même pas son alphabet, qui avait été guéri par Jésus parce qu'il avait cru en lui et qu'il lui avait obéi, se tenait maintenant devant les gens soi-disant les plus instruits, les plus intelligents de tout Jérusalem, sommé par ces religieux aveugles de leur dire la vérité. Écoutez, ça c'est premièrement parce que cet homme avait cru ce que Jésus lui avait dit, deuxièmement, parce qu'il avait obéi à ce que Jésus lui avait demandé, il avait reçu, troisièmement, ce que Jésus possède, bien-aimé. La capacité de transformer quelqu'un, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement, bien-aimé. Voilà. Voilà où ce que nous mène l'obéissance, bien-aimé. Et vous ne pouvez pas savoir les miracles qu'on perd parce qu'on n'obéit pas régulièrement au Seigneur, parce qu'on n'oublie pas toujours au Seigneur, parce qu'on choisit ce à quoi on doit obéir, bien-aimé. Bien-aimé, on ne fera jamais Dieu complice de nos péchés. Ça y a coûté tellement cher, le péché. Jamais, si on vit dans le péché, Dieu va embarquer de notre côté. Hein. Dieu ne nous rejette pas non plus, ne nous renie pas non plus. Mais quand on lui appartient, Dieu est triste de voir qu'on s'est éloigné de lui. Quoi. Mais il ne nous rejettera pas pour ça. Voilà, c'est important, bien-aimé. C'est vraiment important. Sans obéissance, bien-aimé, on ne peut rien s'attendre de Dieu. Quoi. Dieu ne fera pas de compromis avec sa parole. C'est vraiment important et c'est le combat spirituel qu'on a à livrer en Occident surtout, quoi. On est tellement, c'est tellement facile de tomber. Ouais, tu regardes une annonce à la télévision, ben une femme qui va aux toilettes, il faut qu'elle soit tout nue, quoi, pour nous vendre du papier de toilette, la marque d'un papier de toilette. Ça n'est qu'une tête. Hein. On vit dans une société qui est obsédée par le sexe. Hein. Le sexe est partout, quoi, partout. Et je suis un homme, je sais de quoi je parle. Hein. On n'utilise pas souvent des hommes sexy. Hein. On sait c'est quoi? On sait que hein, les hommes, on sait quel genre de... Ben oui, c'est les femmes. Hein. Ben oui. C'est beaucoup plus apparent que nous, de toute façon. Et on marche avec nos yeux, quoi. Ben oui. Et c'est le combat, ce qu'on a à livrer ici. Hein. La même chose que Lot, hein, Sodome et Gomorre. Hein. Lot, c'était son problème. Hein. C'est ce que le texte biblique nous dit. Hein. Ben oui. Et vous savez, pour éviter de mettre nos yeux, là, on ne doit pas les mettre, bien aimé, on doit garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ouais. C'est un des deux, bien aimé. On n'a pas le choix, c'est un des deux. C'est un des deux. Oui. Gardez nos yeux fixés sur les promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a faites, quoi. Je serai tous les jours, sachez-le, je serai tous les jours avec vous, et ça jusqu'à la fin du monde. Voilà. Tu es à côté de moi, Jésus. Quand je jette mes yeux, et c'est Job qui avait fait serment hein, de ne jamais mettre ses yeux sur une autre femme que la sienne, bien-aimé. Ouais. Ben, c'est la même chose pour les femmes. Hein? Je veux bien croire que le féminisme gagne du terrain en Belgique, mais les femmes aussi. Hein? Les femmes sont aussi pécheresses que les hommes, mais ont autant des désirs que les hommes, et ainsi de suite. Donc, on vit la même guerre. Hein? On vit la même guerre. De toute façon, cette guerre-là, elle est visée sur les deux sexes en question, féminin et masculin. Quoi. Voilà. Et c'est quelque chose souvent qui nous éloigne. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça par la suite. Ils deviennent accros. Ils ont des gros problèmes avec ça, quoi. Des gros problèmes. Et c'est pas toutes les femmes qui pardonnent, quoi. Il faut avoir une femme extraordinaire pour être capable de recevoir le pardon, quoi. J'ai eu à traiter comme pasteur une femme qui donnait tout à son mari, jamais la refusait. Et lui a trouvé le moyen d'aller sur des sites pornographiques, quoi. Ils sont venus me voir tous les deux. Il était sans excuse, ce gars-là, quoi. Sans excuse. Sans excuse, quoi. Et il comprenait pas que sa femme était devenue jalouse, qu'elle était en train de devenir... Ben oui, elle comprenait pas pourquoi. Mais il avait tombé dans le piège, et puis voilà. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a la délivrance. J'en suis un modèle, bien-aimé. J'ai travaillé dans la police. J'ai travaillé à l'escouade de la moralité. Quand on saisit des cassettes vidéo porno, nous, les policiers, on doit tous les visionner. Vous imaginez? Pourquoi? Pour savoir quelle sera la nature des accusations qu'on va porter, quoi. Est-ce que c'est de la pédophile? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Il faut, ben oui, hein. Oui. Mais quand tu viens au Seigneur, là, t'as un ménage à faire dans ton cœur, hein. Oui. Et en Jésus-Christ, j'ai dit que j'étais esclave de ça. J'ai dit, Seigneur, il y a juste toi qui peux me délivrer de toutes ces images-là que j'ai vues. C'est fini. C'est fini. J'ai pas essayé de lutter contre moi-même parce que plus tu luttes contre toi-même, plus tu suscites le désir de reprendre sa place, quoi. Ah oui. Bien-aimé, le combat, il n'est pas le nôtre, il est celui de Jésus, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie et qu'on va pouvoir compter sur lui, bien-aimé. Non, c'est pas bien, ça. Amen là-dessus, là. Allez, midi, ou allume les caméras. Vous dites amen à ça. Allez, je prends 5 minutes. Hein. Je finirai pas le message ce matin, mais on va avancer. Hein. Bon, je vais faire la dernière partie. Tenaces et pharisiens ne lâcheront pas prise, ils vont revenir encore une fois à la charge en demandant à l'homme qui avait été guéri de leur dire qui était donc ce Jésus pour lui. Écoutez bien ce qu'il va leur répondre. Et moi, pour un gars qui était aveugle, là, il était pas fou, hein. Il était vraiment pas fou. Écoutez bien ses paroles. Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où vient ce Jésus. et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce, bien-aimé. Faire sa volonté, celui qui y obéit. Ah ouais. Pas facile d'obéir au Seigneur, hein? Et moi, ça a été difficile pour moi, j'ai toujours été rebelle à mes parents. C'est pas facile. Mais si on y appartient vraiment, hein, il faut pas jouer avec les baskets de Dieu. Hein, parce que quand sa patience là, est au bout, il sait comment venir chercher son enfant. Et s'il n'a pas épargné son propre fils, bien-aimé, dans les épreuves, il n'épargnera pas personne. Vous pouvez être sûr de ça. Moi, j'ai eu un cancer à cause d'un péché, j'avais un péché de non-pardon, et le Seigneur m'avait clairement parlé à travers son esprit, « Joe, change, pardonne, parce que tu vas partir, quoi. Ça va être pire, ce que tu vas recevoir. » Et il m'a mis devant une situation, un cancer, on ne pouvait pas m'opérer. Et j'hésitais, moi, à me faire opérer entre la foi et puis la raison. Puis mon oncologue, qu'on a amené au Seigneur, il m'a dit, pense pas trop longtemps parce que dans 6 mois, je t'enterre. Voilà. Ben, moi, j'ai dit, écoutez, la tumeur que j'ai ici, si elle grossit, je vais faire un scan, là. Si elle grossit, c'est parce que Dieu, c'est un signe que Dieu veut que je me fasse opérer et que je continue. Et si elle n'est pas grossie, c'est un signe que... C'est comme la toison, hein? Voilà. Mais Dieu, là, écoute, moi, ça m'a épaté, ça. Alors, on reçoit les résultats. 2 semaines après, je vais voir mon oncologue et je dis, puis, ça a grossi ou ça n'a pas grossi? Ah, il dit, écoute, ça n'a pas changé, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a ni grossi, ça n'a ni rétréci. Et Dieu voulait que je prenne la décision, quoi. C'est pas lui qui apprendrait pour moi, c'est moi. Alors, j'ai dit, OK, je vais la faire. Bien-aimé, vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai rien ressenti. Rien ressenti. Et alors que j'étais en prière, bien-aimé, suite à une chimio que j'avais faite, en prière, j'entends le Saint-Esprit qui dit, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui ronge. Ah, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, là? Ah. Écoutez, je me suis habillé, je suis sorti, je suis allé voir la personne à qui je n'avais pas pardonné. C'est quelqu'un qui avait fait des dégâts dans mon ministère. Et, je suis allé la voir, j'ai dit, écoute, tu avais raison, je ne t'ai jamais pardonné. Je t'ai pardonné de la bouche, mais pas de là. Quand je suis revenu me remettre à genoux dans ma chambre après, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, je t'ai guéri, quoi. Bien-aimé, on ne joue pas avec les baskets de Dieu, quoi. La patience de Dieu, elle a des limites aussi. Hein. Si on lui appartient, bien sûr. Si on n'appartient pas, tu appartiens toujours au diable. Hein. C'est ce que Seigneur Jésus a dit. Hein. Vas-y, quoi, amuse-toi, quoi, plonge. Mais quand tu appartiens au Seigneur, là, et quand tu appartiens vraiment au Seigneur, peu importe les épreuves, bien-aimé, tu ne retournes jamais dans le monde, bien-aimé. Vous savez notre problème, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté aujourd'hui? Parce qu'on a fait des compromis dans notre message. Acte chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Premier sermon évangélique, la repentance, mon œil aujourd'hui, bien-aimé, on a ben trop peur, on fait peur, on a même peur de faire peur aux chrétiens de parler de repentance, bien-aimé. Mais si tu te repens pas, t'es pas sauvé. Ça veut dire qu'il faut au moins que t'avoues que t'es pécheur, quoi. Deuxièmement, la conversion, c'est quoi? C'est le changement de vie que ça va apporter, la nouvelle naissance. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant, tu y trouves plus aucun plaisir. C'est une autre personne. C'est une personne avec qui Jésus-Christ habite, bien-aimé. Mais allez pas parler de ça dans les églises, hein. Il y a une église en Belgique qui m'empêche, là, qui veut plus que j'aille prêcher là, hein. Je suis allé une fois, hein. Ouais. Vous savez pourquoi? T'as l'impression de rentrer dans une discothèque quand tu vas là, quoi. Ouais. Tu peux oublier la Bible, là. Non, comment ça a été bon la semaine, hein. J'ai regardé Miss France. Oh, c'était-tu beau, Miss France, les filles, hein. Hey, écoute, ça vient faire dans une église, ça. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, ferme-y la boîte, parce que c'est moi qui prêche après, ça va sortir, quoi. Eh bien, ça a sorti. Mais après, quand je suis passé dans les années, là, vous savez ce que les membres m'ont dit? Vous devriez venir plus souvent. Vous devriez venir plus souvent. Bien aimé, une église ne doit pas ressembler à une discothèque, mais elle ne doit pas ressembler non plus à un salon funéraire. Hein. Quand l'esprit est là, bien aimé, là, on est dans la joie. On est dans la joie. On devrait louer plus souvent, plus adorer plus souvent, bien-aimé. Si on a vécu toute notre semaine dans l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, on devrait au moins avoir une parole de remerciement, quoi, à chaque dimanche. Dire, Seigneur, merci de m'avoir gardé sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Oui, merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tu étais à mes côtés dans telle chose, je le reconnais. Oui. On a besoin, en tant que chrétien, de se dégeler, là. Oui, on a besoin de proclamer la parole, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose, je vais terminer avec ça. Attendez, vous voyez, là, je dis la vérité. Je vais sauter cette ligne-là aussi. Bon, voilà. Voilà, il m'en reste une. Elle n'est pas complète, en plus. La religion, bien-aimé, là, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'elle était dans les années 60, bien-aimé. Elle a simplement changé de place. Avant, c'était dans des églises magnifiques. Les statues étaient dans les airs. En tout cas, moi, c'était des vieilles églises au Québec. Les statues dans les églises, immobiles. Il y a des fois qu'on chantait, oui, mais réservées. Mais maintenant, bien-aimé, les églises, elles ont déménagé. C'est dans les stades maintenant que la religion se passe, bien-aimé. Il y a 100 000, 200 000 personnes dans les stades. C'est charismatique, bien-aimé. Hey, oh, il y a une statue. La statue, elle bouge en plus sur le terrain, bien-aimé. Ah oui, hein? Et là, une bière, là, allez, oh, oh! Ils viennent d'exaucer mon soi, il a compté un but. C'est de la religion, ça, bien-aimé. C'est de la religion. Et eux, ils ont déjà leur... Nous, on attend la venue du Messie, mais eux, il est déjà arrivé. Il s'appelle Lionel. Ils sont contents. Il adulte partout, bien-aimé. Je vais dans des églises, on ne me demande pas plus que 20 minutes pour prêcher. Je leur dis, écoute, tu en rappelles un autre. Hein? Quand une église a besoin que de 20 minutes de prédication le dimanche, elle a besoin d'un réveil. Ça me fait penser à Paul qui avait prêché pendant toute une nuit. Hein? Et qu'il y avait un enfant qui était tombé, Paul l'avait ramené. Bien-aimé, ça me fait rire. Il y a des chrétiens qui sont capables de regarder dans un mondial 2 matchs de foot en ligne. Hein? Mais plus que 30 minutes de prédication, ils étouffent. Hein? Mais change tes priorités, mon copain. Change tes priorités. Hein? Avec la caisse de bière, après le sac de chips, allez, on y va, hey, c'est le party. Hein? Non. Hein? Fais un party avec le Seigneur Jésus, quoi. Lis sa parole, loue-le, adore-le, remercie-le pour le salut. À tous les jours, on devrait le remercier pour le salut qu'on a eu en Jésus-Christ. Ouais. Je prie pour mes petits-enfants. Ouais. Je sais ce qui les attend si le Seigneur ne revient pas bientôt. Je sais ce que, mais grand, maintenant, comme je vous ai dit tantôt en début, le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël, moi, je ne mets pas de date. Hein? Mais Gog et Magog, c'est la Russie et la Chine. Hein? Quand vous regardez l'emplacement, Chine, ils sont déjà en Israël, hein? À travers l'Iran. Ils soutiennent l'Iran, ils sont là. Hein? La seule chose, c'est que dans l'histoire, les Américains n'ont pas leur place. Là. Et là, ils commencent à avoir de la pression. À un moment donné, ils vont se retirer. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va les pousser. Ils vont devoir se retirer la pression du monde. Et là, bien-aimés, on verra peut-être le Seigneur Jésus mettre le pied sur le mont des Oliviers. On verra peut-être le Seigneur Jésus arriver avec son armée, bien-aimés. Est-ce que vous réalisez qu'on n'a pas de temps à perdre? On est peut-être la dernière église qui va être enlevée, bien-aimé. Ce que tous les croyants de toute génération ont rêvé. Hey! C'est extraordinaire, bien-aimé. Vous êtes des élus, mais peut-être maintenant, vous allez décoller. C'est extraordinaire, ça. Transformer, bien-aimé. Mon petit-fils, il y a 10 ans, il s'intéresse beaucoup aux choses de Dieu. Et mon petit papa, il dit, oui, mais Abraham, ça fait quand même plus de 2000 ans qu'il est en haut, il doit trouver le temps long, hein. J'ai dit, non, en haut, le temps ne compte plus, on rentre dans l'éternité, hein. Non, parce que Abraham, il pourrait dire à Dieu, mais écoute, ça fait quand même 2000 ans, je suis ici, j'attends, moi, de la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Tu me dis combien de temps? Non, Abraham, j'ai dit, le temps ne compte plus en haut, quoi. On rentre dans l'éternité. C'est la même chose pour Dieu. Hein? Le temps n'a jamais compté pour Dieu. C'est nous qui appliquons les secondes, les minutes et tout ça pour des points de repère. Mais avec Dieu, Dieu voyage en éternité. Est-ce que vous savez que Dieu voyage en éternité, bien-aimé? Le temps ne compte pas pour lui. C'est pour ça qu'il est capable déjà de prédire ce qui va arriver parce qu'il l'a vu. Il l'a vu, bien-aimé. Il a déjà pris du recul, il l'a vu arriver l'événement, lui. Et là, il est revenu, puis avec la parole, il nous dit, il nous prédit ce qui va arriver à la fin des temps. Il l'a vu! C'est extraordinaire, bien-aimé. On a tout. Maintenant, il s'agit de sortir, si vous êtes dans ce cas-là, de sortir de notre paresse spirituelle et de dire, Seigneur, donne-moi un bon coup de derrière, non pas un coup de derrière, mais donne-moi, frappe-moi là où ça va me faire du bien pour que je puisse aller de l'avant. Ça me lever pour toi. Je fais partie de ton armée. Arrêtons de faire des mamouches. Il y a des gens, là, c'est des fleurs bleues dans le Seigneur, quoi. Non, on est une armée, bien-aimé. On est une armée. Qui acceptera aujourd'hui de perdre sa maison, perdre sa voiture, perdre son emploi pour servir le Seigneur? Je ne suis pas mieux que vous autres, moi je l'ai fait. Vous savez pourquoi je suis rendu ici? Moi, je n'ai jamais dit non au Seigneur. Jamais. Moi, je suis un Abraham. Je n'ai jamais dit non au Seigneur. Je ne savais même pas que je m'en venais en Belgique quand j'ai dit oui, moi. Hein? J'avais 4 jeunes enfants. Hein? Mon dernier, il avait 2 ans et demi. On m'a traité de fou, hein? Mais moi, j'étais convaincu que c'était un appel de Dieu. Et Dieu n'est pas fou pour moi. Dieu est sage. Et je suis content d'être en Belgique. Parce que je vous aime. Parce que vous êtes mes frères. Et je ne retournerai jamais plus au Québec. Et les gens me traitent de fou, hein, le Québec. Mais je leur dis, savez ce que je leur dis? Le paradis n'est nulle part sur la terre. Chaque pays a ses avantages. Chaque pays a ses défauts. Des avantages aussi. Alors, je termine avec ça. Quand Dieu parle, l'obéissance est la clé qui ouvre la porte des miracles, bien aimé. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte des miracles. Je t'amène à ça. Non, pour le dernier amen, là, dites-moi un beau amen. Amen? Bon, OK, ça c'est convaincant. Ah, dans la Bible, chaque miracle a commencé par la confiance et l'obéissance de quelqu'un, que ce soit Moïse, quand il a levé ses bâtons, son bâton pour ouvrir la mer en deux, que ce soit lorsque Pierre a jeté à nouveau son filet dans l'eau pour avoir une pêche miraculeuse, et surtout pour les serviteurs qui ont rempli les jarres d'eau et qui s'est tourné en vin, quoi. Ils ont simplement obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole. On est vif pour faire des sacrifices, pour obéir. Mais je ne vous juge pas, bien-aimés. Et je vous condamne pas, j'ai mes propres combats, quoi, hein? J'ai mes propres combats aussi. Il faut en parler à ma femme, hein. Mais on a tous nos combats, quoi. On a tous nos combats. On a des caractères que Dieu veut nous amener à rassembler à Jésus-Christ, mais on a tous nos combats. L'obéissance ne paraît peut-être pas toujours être logique, mais elle est toujours efficace. En choisissant de suivre la parole de Dieu, même dans les moments difficiles, vous vous préparez à ce que la puissance surnaturelle de Dieu se manifeste dans vos vies. Votre acte de foi aujourd'hui pourrait être bien celui qui changera tout demain dans votre vie. Obéissez à sa parole, faites confiance à sa direction et vous verrez les miracles se produire sous vos yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience, merci pour votre présence aujourd'hui. Allez dans la paix du Seigneur et le peuple de Dieu dit « Amen, que Dieu vous bénisse. »